Chapitre 12. Le témoignage au fils de David et au fils de l'homme. La résurrection de Lazare a révélé la gloire de Jésus comme fils de Dieu. Maintenant, nous avons le privilège d'entendre un nouveau témoignage rendu à sa gloire comme fils de David, versets 12 à 19, et comme fils de l'homme, versets 20 à 36. Le résultat de ce triple témoignage à la gloire de Christ en ce qui concerne la nation est présenté dans la dernière partie du chapitre, versets 37 à 50. Le témoignage à la gloire de Christ comme fils de Dieu est clairement rejeté par le peuple. Mais avant de placer devant nous les autres témoignages à sa gloire, l'Esprit de Dieu a introduit cette scène touchante de Béthanie pour que nous sachions qu'il y avait des personnes, ses propres brebis, qui aimaient et appréciaient le Seigneur. Versets 1 à 11. Le souper de Béthanie. Citation de l'Écriture. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, le mort, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie, donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, donc, Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?» Or, il dit cela non pas qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Jésus donc dit « Permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une grande foule d'entre les Juifs sut donc qu'il était là, et vint non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux sacrificateurs tinrent conseil afin de faire mourir aussi Lazare, car à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Fin de citation. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie. Ne pouvons-nous pas dire de cet endroit qu'il était le seul sur la terre qui avait un prix particulier pour le cœur de Christ ? C'était le village de Marie, une croyante qui jouissait de toute l'approbation du Seigneur. Béthanie avait été la scène de la révélation de sa gloire dans la résurrection de Lazare. C'est à Béthanie qu'on lui fit un souper. Et comme nous l'apprenons par Luc, c'est là que, lors de son ascension, levant ses mains en haut, il les bénit. Luc 24, verset 50. Il n'est pas arrivé souvent que quelqu'un ait fait un souper pour Christ quand il était dans ce monde. Les hommes, à l'occasion, étaient tout disposés à recevoir de lui une bénédiction, mais ils ont rarement pensé à offrir quelque chose à celui qui l'a dispensé. Pourtant, au début du ministère du Seigneur, Lévi lui fit un grand festin dans sa maison et invita une grande foule de pécheurs à s'asseoir avec lui à table. Luc 5, verset 29. Maintenant, à la fin, dans les derniers jours de son chemin sur la terre, on prépare un souper pour lui et il s'assied au milieu de ses saints. Quel immense festin ! Christ était venu offrir dans ce monde plein de besoins. Il était venu révéler le Père, chapitre 1, verset 18, apporter la joie, chapitre 2, verset 10 et 11, nous parler des choses célestes, chapitre 3, verset 12, conduire nos cœurs dans des scènes de satisfaction éternelle, chapitre 4, verset 14, nous faire passer de la mort à la vie, chapitre 5, verset 21 et 24, nous délivrer de la misère, chapitre 6, verset 35, nous donner le Saint-Esprit, chapitre 7, verset 39, et nous introduire dans les bénédictions du christianisme, chapitre 10. Dans toutes ces actions bénies, il était le donateur. Mais maintenant, enfin, dans la maison de Béthanie, il va recevoir. Enfin, le moment était venu où quelques cœurs dévoués préparent un festin pour celui qui en a fait un pour le monde entier. On lui fit donc là un souper. Au milieu de la haine croissante du monde contre Christ, une petite compagnie se réunit pour lui faire un souper. Les chefs de ce monde peuvent bien tenir conseil pour mettre Christ à mort et donner des ordres pour qu'il soit livré entre leurs mains, mais sans se laisser émouvoir par leur complot odieux et leurs vains commandements, et face à toute l'opposition, cette petite compagnie lui fait un souper. Certainement, le Seigneur a estimé ce souper à sa juste valeur, et l'amour qu'il a préparé a été très précieux à ses yeux. De même que dans les derniers jours du judaïsme corrompu, quelques-uns des siens, qui avaient entendu sa voix et avaient été touchés par son amour, ont eu la possibilité de lui faire un souper, aujourd'hui, dans les derniers jours du christianisme corrompu, au milieu de la marée montante de l'apostasie, alors que son nom est renié et son œuvre méprisée, des individus peuvent encore lui faire un souper. En effet, le Seigneur a dit « Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Dans cette heureuse compagnie de Béthanie, nous pouvons voir que le service, la communion et l'adoration ont chacun leur représentant, mais tous s'unissent pour lui faire un souper. Marthe sert toujours, mais elle n'est plus distraite par son service. Autrefois, celui-ci occupait dans ses pensées une plus grande place que Christ. Maintenant, Christ a une plus grande place que son service. Elle sert pour lui faire un souper. Concernant Lazare, qui avait passé par la maladie et la mort, et qui avait été ressuscité d'entre les morts miraculeusement, nous lisons qu'il était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Il se repose dans la jouissance de la communion avec Christ. Marie, qui s'était tenue précédemment à ses pieds pour apprendre, Luc 10, verset 39, et qui avait pleuré peu avant à ses pieds dans son affliction, chapitre 11, verset 32, est maintenant à ses pieds pour adorer. Elle oint ses pieds avec le parfum de grand prix et lui essuie les pieds avec ses cheveux. Par son acte, elle proclame que, selon son estimation, rien de ce qu'elle possède n'est assez bon pour Christ. Elle répand sur lui le précieux parfum et met à sa disposition ce qui constitue la gloire d'une femme, ses cheveux. À ce moment, elle ne pensait pas aux pauvres ou à la bénédiction d'autrui, elle était tout entière occupée de Christ. En réalité, c'est cela l'adoration. Mais même ainsi, celui qui est absorbé par Christ apportera de la bénédiction à d'autres. Aussi lisons-nous, « La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Hélas, au parfum de l'amour, vient se mêler l'astuce du traître. Jésus est la lumière et, dans sa présence, tous sont manifestés sous leur vraie couleur. Ce qui a été l'expression de l'amour d'une sainte dévouée fournit l'occasion de découvrir la convoitise d'un pécheur sans cœur. Tandis que Marie se réjouit de consacrer le nard de grand prix à celui dont la valeur est infinie, Judas calcule froidement le prix du parfum. 300 deniers constituaient le salaire annuel d'un ouvrier, une somme qui aurait permis de pourvoir aux besoins d'une famille nécessiteuse pendant une année. Quand bien même il déclare que l'argent aurait pu être donné aux pauvres, le seul regret de Judas est de ne pas avoir pu ajouter ce montant à ses gains déshonnêtes. Ne se souciant ni de Jésus ni des pauvres, cet homme est gouverné par l'amour de l'argent. Pour en obtenir, il est prêt à voler dans la bourse et à trahir Christ. Le Seigneur protège ses brebis contre le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Si par amour le berger met sa vie pour les brebis, il ne permettra pas qu'elles soient touchées. Jésus dit « Permets-lui ». Marie n'avait probablement pas une perception claire de la mort et de la résurrection de Christ, mais ses instincts spirituels, mus par l'affection, la conduisent à faire le bon geste au bon moment. Et, comme cela a été dit, le Seigneur donne à son acte une voix qui provenait de son intelligence. Elle aurait certes eu mainte occasion de vendre le parfum au profit des pauvres, ou de le répandre plutôt sur Christ. Mais, dit le Seigneur, elle a gardé ceci pour ce moment suprême. Le Seigneur permet que tous sachent que le parfum a été gardé pour le jour de la préparation à son ensevelissement. C'était une expression d'amour pour Christ, qui devient un témoignage au fait que celui qui venait de ressusciter un homme d'entre les morts allait lui-même entrer dans la mort. Le Seigneur n'est assurément pas indifférent aux pauvres, car il dit que nous avons toujours les pauvres avec nous. Mais, avec une tendresse touchante, il ajoute « Moi, vous ne m'avez pas toujours ». Il est conscient de son départ imminent. Quant à Marie, ses instincts spirituels lui disent que l'ombre de la mort est en train de se refermer sur son Seigneur. Lazare était un témoin de la puissance de Christ en résurrection, mais l'acte de Marie déclarait que celui qui avait la puissance de la vie en résurrection allait entrer dans la mort. Comme si souvent, l'amour dévoué donne l'intelligence divine. Marie semble ainsi être la seule qui soit entrée dans la pensée du Seigneur et ait réalisé que la mort était devant lui. Judas était caractérisé par un esprit de mensonge, de traîtrise et d'hypocrisie. Toutefois, d'autres personnes, une grande foule d'entre les Juifs, qui n'étaient pas poussées par des motifs aussi sordides, étaient présentes. Elles étaient venues attirées non par la foi en Christ, mais plutôt par la curiosité, pour voir un homme qui avait été ressuscité d'entre les morts. Si à Béthanie une maison était remplie du parfum de l'amour qui avait fait un souper pour le Seigneur, dehors nous trouvons ceux qui, animés par la haine et la méchanceté, tenait conseil afin de faire mourir Lazare ainsi que celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ils auraient bien aimé se débarrasser non seulement de Jésus, mais aussi de tout témoin vivant à sa grâce et à sa puissance. Au fond, le monde demeure le même. Il ne veut ni de Christ, ni de ses fidèles témoins. Ceux qui vivent pieusement subiront la persécution. Et, derrière l'hostilité des conducteurs juifs, se cache toujours l'envie qui ne peut supporter de voir leurs disciples les quitter pour suivre Jésus. Versets 12 à 19. Témoignage rendu à la gloire du Seigneur comme fils de David. Citation de l'Écriture. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui et criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient assis sur l'ânon d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. La foule donc qui était avec lui lui rendait témoignage parce qu'il l'avait appelé Lazare hors du sépulcre et qu'il l'avait ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aussi la foule alla au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens donc dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Fin de citation. Toutefois, Dieu décide qu'un témoignage adéquat sera rendu à la gloire de celui que l'homme a rejeté. Sa gloire comme fils de Dieu a déjà été démontrée. Maintenant, sa gloire comme fils de David va faire l'objet d'un nouveau témoignage. Entendant dire que celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts venait à Jérusalem, une grande foule sort avec des rameaux de palmiers pour l'acclamer comme le fils de David, le roi d'Israël promis, celui qui vient au nom du Seigneur, comme l'annonce leur propre psaume, psaume 118, verset 26, et monté sur l'ânon d'une ânesse, selon qu'il est écrit dans les prophètes, Zacharie 9, verset 9. Les disciples furent lents à réaliser la signification profonde de ces choses. Ils ne les comprirent qu'après la glorification de Jésus. Toutefois, impressionnés par la résurrection de Lazare, la foule conclut à juste titre que cette personne glorieuse était le fils de David promis depuis longtemps. En présence de ce témoignage à la gloire de Christ, les pharisiens doivent admettre entre eux que leur opposition ne sert à rien. Le croyant aussi est invité à ne jamais oublier que, malgré toutes les apparences du contraire, nulle opposition contre Christ ou la vérité ne peut finalement l'emporter. Versets 20 à 36. Témoignage rendu à la gloire du Seigneur comme fils de l'homme. Citation de l'Écriture. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le priaient, disant « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André. Et puis André vient et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Il vint donc une voix du ciel. « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. » La foule donc, qui était là et qui avait entendu, dit qu'un coup de tonnerre avait eu lieu. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus répondit et dit « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. » Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit : Nous, nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment toi dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus donc leur dit : Encore pour un peu de temps la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. » Jésus dit ces choses, et, s'en allant, il se cacha de devant eux. Fin de citation. La venue des Grecs, il s'agit non pas d'hellénistes, c'est-à-dire de juifs parlant grec, mais d'Hélènes, de gens des nations, en réalité des gentils, et leur désir de voir Jésus sert d'introduction au troisième grand témoignage à la gloire de Christ comme fils de l'homme. Les gentils n'avaient aucun droit sur Christ comme le Messie. Aussi ces Grecs s'approchent-ils du Seigneur de la bonne manière, par l'intermédiaire des disciples. De même qu'auparavant le centurion d'entre les nations avait envoyé les anciens des Juifs demander au Seigneur de venir. Le Seigneur parle aussitôt de lui-même comme le fils de l'homme, un titre sous lequel il devient la voie de bénédiction pour tous les hommes. Verset 32. Ainsi, le désir des gentils de voir Jésus amène le Seigneur à donner à ses disciples la vision d'un ordre de bénédiction entièrement nouveau, s'étendant loin au-delà des limites d'Israël. Il peut dire « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. » Nous savons qu'ayant été rejeté comme le Fils de Dieu et le roi d'Israël, selon le psaume 2, Christ recevra la domination sur toute la terre comme fils de l'homme, selon le psaume 8. Par le prophète Daniel, nous apprenons encore que, comme fils de l'homme, il lui sera donné la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servent. Daniel 7, versets 13 et 14. Ainsi, l'Ancien Testament présente abondamment la domination universelle par laquelle Christ sera glorifié. Le moment de cette gloire n'est pas encore venu. Ainsi, lorsque le Seigneur dit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié », il n'a certainement pas en vue le royaume, mais il pense à la croix où le Fils de l'homme allait être glorifié en glorifiant le Père, selon l'enseignement qu'il donnera plus tard dans la chambre haute. Chapitre 13, verset 31. Aussi, le Seigneur parle-t-il immédiatement de sa mort, qui ouvre la voie de la bénédiction à tous les hommes. Il faut que Christ meure. Une vérité d'une importance si immense que le Seigneur l'introduit par un « en vérité, en vérité ». À moins que Christ, le précieux grain de blé, ne tombe en terre et ne meure, il doit demeurer seul pour l'éternité. S'il n'est pas semé, le grain de blé reste un grain solitaire. S'il est semé, non seulement il porte beaucoup de fruits, mais du fruit de la même espèce. Ainsi, le Seigneur entre dans la mort afin d'assurer une semence selon son ordre à lui. Des siècles auparavant, regardant à la croix, Ésaïe a pu dire « S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. » Ésaïe 53, verset 10. La voie de la bénédiction pour l'homme passe donc par la mort. Mais la bénédiction dans laquelle la mort de Christ introduit les croyants est d'un ordre entièrement nouveau, au-delà de la puissance de la mort. Le Seigneur met ainsi en contraste les deux sphères de vie, la vie dans ce monde-ci, et la vie de joie et de bénédiction qui est appelée la vie éternelle. La vie dans ce monde est au mieux une existence passagère. Celle que donne le Seigneur est éternelle. Affectionner sa vie ici-bas, c'est se raccrocher à une vie qu'il nous faudra perdre, et perdre même en la poursuivant. Haïr sa vie dans ce monde, en vue de la vie éternelle, signifie entrer maintenant même dans la jouissance de la vie éternelle. Pesons bien la signification profonde des paroles du Seigneur. Se tourner vers le monde, cherchant notre plaisir dans tout ce en quoi le monde estime se trouver la vie, se révélera n'être qu'amertume et chagrin, pour le croyant, quand il découvrira qu'il poursuit ce qui, non seulement ne peut pas donner de satisfaction durable, mais même sous son meilleur aspect, échappe toujours plus à son étreinte, car c'est une vie qui finit dans la mort. En outre, nous ne possédons pas seulement la vie nouvelle avec ses joies durables en contraste avec la vieille vie passagère, mais nous avons le privilège de vivre une vie de service pour le Seigneur. Pour marcher dans ce sentier de service, nous devons suivre le Seigneur. Ainsi, un peu plus loin, l'injonction donnée par le Seigneur à Pierre de paître ses brebis est suivie par l'exhortation « Suis-moi » chapitre 21, versets 17 et 19. Nous trouvons là un motif supplémentaire pour accepter la mort à la vie présente, car en principe, suivre Christ passe par la mort au péché et au monde. Un tel chemin aura sa récompense en gloire. Suivre Christ conduira là où Christ est allé pour être avec lui dans la demeure éternelle de la vie. Cela peut entraîner l'opposition et la persécution des hommes. Cela vaudra certainement d'être honoré par le Père. Le Seigneur nous a exhortés à prendre le chemin de la mort à ce monde qui conduit à la vie et à l'honneur. Mais avant que le croyant puisse suivre ce chemin, il fallait que Christ passe par la mort, comme jugement de Dieu contre le péché. Réalisant la solennité de l'abandon de Dieu à la croix, le Seigneur doit dire « Maintenant, mon âme est troublée. » Même alors, va-t-il demander « Père, délivre-moi de cette heure » N'était-ce pas précisément pour cette raison, être abandonné afin que les siens ne le soient jamais, qu'il était venu à cette heure ? Aussi, quel qu'en soit le prix pour lui, il ajoute « Père, glorifie ton nom ». Immédiatement, la réponse du Père vient du ciel, disant « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau ». Le Père avait déjà glorifié son nom en ressuscitant Lazare. Maintenant, il allait le glorifier en ressuscitant Christ pour une meilleure résurrection, au-delà du pouvoir de la mort. La réponse au trouble éprouvé par l'âme du Seigneur en vue de la mort sous le jugement est la vie dans toute sa plénitude, au-delà de la mort, pour lui-même et les siens. Le Père avait rendu publiquement témoignage que le Fils était celui par qui il glorifierait son nom. Non habitué aux voix venant du ciel, La foule raisonnait sur ce témoignage public. Pour certains, il s'agissait d'un coup de tonnerre, pour d'autres, de la voix d'un ange. Le Seigneur leur déclare clairement que la voix était venue pour eux. Marchant toujours dans la communion avec le Père, il n'avait lui-même pas besoin d'un tel témoignage public. En outre, la voix constituait un avertissement que la mort et la résurrection de Christ, par lesquels le Père est glorifié, allaient apporter le jugement au monde comme tel. Si l'heure était venue pour que le Fils soit glorifié et que le nom du Père le soit, l'heure du jugement du monde, où le chef de ce monde sera jeté dehors, était aussi venue. Le monde qui a rejeté Christ est condamné par la croix, tandis que la puissance de son chef est brisée. D'un autre côté, la croix manifeste le Sauveur qui devient le centre d'attrait pour tous les hommes. Sur la terre, il était en relation avec Israël comme le Messie. Il pouvait dire « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais une fois le Seigneur élevé de la terre, l'efficacité de sa personne et de son œuvre s'étend aussi bien aux Juifs qu'aux gentils. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour conclure que la croix est en vue, car il est dit clairement que, par ses paroles, le Seigneur indiquait de quelle mort il allait mourir. Ainsi, la croix signifiait la souffrance pour le Seigneur, verset 27, la gloire pour le Père, verset 28, le jugement pour le monde, verset 31, la destruction du pouvoir du diable, verset 31, et le salut pour tous, verset 32. Dans les versets qui suivent, nous voyons les ténèbres de la foule en contraste avec la lumière dans la personne de Christ, mettant au jour le conflit entre l'incrédulité et la vérité. La foule interprète justement l'élévation comme une référence à la croix, mais, dans son incrédulité, elle se sert des Écritures qui parlent du royaume éternel de Christ pour contredire les paroles du Seigneur. Omettant d'autres passages au sujet des souffrances de Christ qui conduisent à la gloire, elle demande « Comment, toi, dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme ?» Par leurs questions, ils trahissaient les ténèbres de leurs âmes. Sans donner de réponse formelle, le Seigneur répond à l'état d'âme qui les inspirait. Il était la lumière du monde. Encore un peu de temps et la lumière serait retirée. La sagesse aurait consisté à profiter de la lumière, de peur que, quand il serait trop tard, les ténèbres ne s'emparent d'eux. La lumière était là, dans la personne de Christ, mais seuls ceux qui croyaient en la lumière auraient l'intelligence que donne la lumière et seraient alors caractérisés par la lumière comme des fils de lumière. Celui qui rejetait la lumière de Christ tomberait dans les ténèbres de son propre esprit et s'égarerait, ne sachant pas où il va. Tel a été le cas de la nation juive qui a rejeté Christ. Et il en sera ainsi de la chrétienté apostate qui, de nouveau, rejette la lumière et est en train de se perdre dans les ténèbres du modernisme et de l'incrédulité. Une fois encore, aujourd'hui, depuis sa place qui est dehors, le Seigneur appelle ceux qui, dans la profession chrétienne, sont spirituellement aveugles. Il leur conseille de prendre un collyre pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. Apocalypse 3, verset 18. Après avoir donné ces avertissements solennels, le Seigneur s'en alla et se cacha de devant ceux qui rejetaient tout témoignage à sa personne et méprisaient tous ses avertissements. Versets 37 à 50. Résultat du triple témoignage à la gloire de Christ. Citation de l'Écriture. Et quoi qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe, le prophète qu'il prononça, fût accomplie. Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient convertis, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, Plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne le confessait pas, de peur d'être exclu de la synagogue. Car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, ah, qui le juge. La parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. » Fin de citation. Les derniers versets du chapitre présentent la position solennelle de la nation qui refuse de croire en Christ malgré les nombreux signes qui avaient été faits devant elle. Premièrement, selon le prophète Ésaïe, ils avaient rejeté aussi bien ce qu'ils avaient entendu du Seigneur que le bras du Seigneur. Les paroles merveilleuses du Seigneur constituaient ce qu'ils avaient entendu, et les nombreux miracles montraient le bras du Seigneur. Ils avaient totalement refusé de reconnaître comme venant de Dieu ce qu'ils avaient entendu, imputant les paroles du Seigneur au diable, chapitre 8, versets 49 et 52. Ils avaient rejeté le bras du Seigneur en attribuant ses œuvres à la puissance du diable, chapitre 10, versets 20 et 21. Deuxièmement, du fait qu'ils ne voulaient pas croire, le temps arrivait où ils ne pourraient croire. Ils ont été endurcis judiciairement. Ésaïe, qui a prophétisé de leur refus délibéré, annonce aussi le jugement judiciaire qui résulte du rejet de Christ. Ils avaient endurci leur cœur contre ses paroles et fermé leurs yeux à ses œuvres de puissance. En conséquence, Dieu les a livrés à la cécité et à l'endurcissement qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Ces choses, Ésaïe les avait dites quand il avait vu la gloire du Seigneur. S'il n'avait pas eu cette vision, il aurait pu avoir quelque espoir pour le peuple. En présence de la gloire, il voyait leur état solennel et désespéré. Toutefois, plusieurs furent convaincus que le Seigneur était véritablement le Christ par la preuve irréfutable des œuvres. Apparemment, seule la raison avait été convaincue. Leur cœur restait non touché et inchangé. Ayant les hommes plutôt que Dieu devant eux et désirant être bien considérés dans le monde religieux, ils n'étaient pas prêts à rencontrer l'opprobre de Christ. Aussi ne le confessaient-ils pas, de peur d'être rejetés par les hommes. Les versets qui suivent donnent le témoignage public final du Seigneur. Premièrement, nous voyons la bénédiction positive résultant du fait de croire en lui. La foi en lui donne aux croyants la pleine révélation du cœur de Dieu. Voir le Fils, c'est voir le Père révélé dans le Fils. Le Père et le Fils sont un. Deuxièmement, nous apprenons que cette lumière, la vérité quant à Dieu, est pour tous. Il était venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque, juif ou gentil, croit en lui, ne demeure pas dans les ténèbres ou l'ignorance de Dieu. Troisièmement, nous sommes avertis du jugement qui frappera celui qui entend et ne croit pas. Il est vrai que le Seigneur est venu non pas afin de juger le monde, mais afin de le sauver. Néanmoins, si ses paroles sont rejetées, elles seraient un témoin au dernier jour contre celui qui rejette Christ, et cela d'autant plus quelles étaient les paroles que le Père lui avait données à dire. Des paroles, données certes pour la vie et la bénédiction, mais qui, si elles étaient rejetées, deviendraient des paroles de condamnation.